Ils sont de moins en moins nombreux. Les Français les aiment, leur cherchent des conjoints, mais leur demandent aussi des comptes. Qui sont-ils? De quoi est fait leur quotidien? Pourquoi exercent-ils ce métier? Et d'ailleurs, est-ce vraiment un métier? Les agriculteurs nous nourrissent, façonnent nos paysages. Pour mieux les comprendre et mieux apprendre à les aimer, on va prendre le petit déjeuner avec eux et essayer de mettre nos pieds dans leurs bottes.
Jean-Baptiste a grandi sur une ferme, mais l'évidence n'était pas là. Les difficultés économiques de son père lui ont laissé le souci permanent de la rentabilité de son activité. Grâce à un passage en agriculture biologique et la création d'une unité de transformation, il a pu trouver les clés de son épanouissement. Ses études en industrie agroalimentaire lui servent tous les jours. Et sa fierté de faire vivre son territoire par ses produits, par les emplois qu'il crée, se lit dans ses yeux. C'est au cœur de son atelier, dont on perçoit l'activité sonore, que nous avons discuté. Ce matin-là, il faisait chaud sur le Quercy. Et nous avons parlé rotation, valeur ajoutée et soupe. Allez, on essaie ses bottes ?
Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Alors, Jean-Baptiste Gibert, j'ai 36 ans, bientôt 37, installé depuis 2016 sur l'exploitation familiale.
Tu dirais que tu es quel agriculteur ?
Un agriculteur peut-être innovant,
ouais.
Fait de la génération actuelle. Quoi.
Ouais. Et alors, comment elles sont tes bottes ?
Mes bottes, elles sont parfois vertes, parfois blanches.
Ok.
Voilà, donc ça dépend de l'atelier sur lequel je travaille.
On va repartir du début. Est-ce que tu peux me raconter ton enfance, à quoi elle ressemblait, où elle s'est passée ?
Eh bien, moi, j'ai grandi sur l'exploitation, hein, parce que je suis la 9e génération d'agriculteur.
D'accord. Je crois que c'est le plus ancien que j'ai rencontré depuis le début.
On a fêté les 200 ans de la maison. Donc voilà, donc j'ai grandi dans le milieu agricole, mais c'était au moment de la crise agricole, en 90, par là.
D'accord.
Donc ça m'a pas fait rêver au départ, ouais. Le métier agriculteur. Donc j'ai fait des études en laboratoire et industrie alimentaire.
Ouais.
Jusqu'à 30 ans quasiment, où je me suis installé sur l'exploitation.
Donc ça veut dire que quand tu étais enfant, on va dire entre 5 et 10 ans, tu venais pas particulièrement sur l'exploitation, c'était pas tes jeux, c'était pas...
Je venais au moment du raisin, on allait distribuer les plateaux dans la vigne, enfin,
ouais.
Les activités classiques. Après ça, c'était toujours... mon père, il nous a jamais dit, là il faut absolument venir travailler, aider, c'est
ouais.
Pour nous occuper, et puis si on n'avait pas envie, on n'y allait pas. Quoi.
D'accord. Et du coup, c'était quoi tes passions quand t'étais petit?
Mes passions quand j'étais petit, moi j'aimais bien sortir avec mes copains, on se voyait pas mal. Après le rugby,
ouais.
Évidemment, quand j'ai commencé à 6 ans.
D'accord.
Comme beaucoup, je pense, dans le secteur. Après, j'aimais bien les tracteurs.
Ouais.
À 10 ans, je conduisais le tracteur dans les champs. Mais voilà, et puis la nature, la biologie.
Après, et du coup, tes études secondaires, t'as fait un collège classique. Après, qu'est-ce que t'as fait comme...
J'ai fait un collège un peu plus longtemps parce que j'aimais ça. Ouais. Et après, je suis allé en lycée agricole.
D'accord.
Donc à côté de Villeneuve-sur-Lot.
D'accord. Mais pas avec l'idée, jamais dans l'idée de devenir agriculteur.
Voilà. Donc j'ai intégré en fait une filière. J'ai fait un BEPA contrôle qualité en laboratoire.
D'accord.
Donc en alimentaire.
Ouais.
Et donc j'ai fait ce cursus-là jusqu'au bac. J'ai un BTA laboratoire. Après je me suis essayé à la fac de bio. Bon.
C'était un essai.
C'était sympa. J'ai bossé et puis j'ai vu que c'était quand même chiant de porter les cartons, donc si je vais passer un BTS pour dire aux autres de porter les cartons.
D'accord, ok.
Donc voilà, pareil, un BTS agricole, mais là spécialisé en industrie.
D'accord, ok. Et ça, tu l'as fait où ?
À Sainte-Livrade.
D'accord.
Sainte-Livrade sur l'Aude, donc
d'accord. Voilà. Et du coup, une fois que tu as eu fini tes études, tu commences à travailler, tu travailles dans quel type d'entreprise ? Qu'est-ce que tu fais comme...
Alors, quand j'ai eu fini mon BTS, je suis resté 2 ans en tant que surveillant dans le lycée.
Ouais.
Voilà. Et donc, vu que, a priori, surveillance n'est pas surchargé en horaire de travail, le mercredi midi, j'avais fini ma semaine. Et donc, je venais bosser sur l'exploit. Parce qu'entre temps, mon père avait fait une transition en bio au tout début des années 2000.
Ouais.
Donc, sur les toutes premières conversions.
D'accord.
Et donc, il a retrouvé le plaisir de travailler, le côté agronomique.
Ouais.
Voilà. Donc, ça m'a un peu plus attiré. Donc, je venais bosser à mi-temps.
Et du coup, cette crise à la fin des années 90, pour ceux qui, ça a concerné quel secteur d'activité
et... c'était la crise agricole et c'est ce qui a engendré la création de la PAC,
ouais,
notamment.
D'accord.
Et donc, je pense que c'était assez général, hein, les crises. Nous, on n'a pas d'élevage, donc on n'était pas concernés par la crise du lait qui était, oui, à cette époque-là. Mais quand il y a une crise du lait, forcément, tous les fournisseurs, donc nous, on a des céréales, oui, pas mal. Voilà, donc on a été impacté, ouais, aussi. Et puis, voilà, et donc ça, c'était, ouais, une crise agricole qui a engendré...
D'accord.
Nous, on a fait prêt de restructuration parce, ouais, qu'économiquement, ça tenait plus. Voilà.
OK. Et donc, une fois que tu as fini tes 2 années de surveillant, tu fais quoi? Tu...
Eh bien, on a eu le projet, on a eu une année très compliquée en fruits,
ouais,
où on a tout jeté quasiment.
D'accord.
Et donc, l'idée a germé de créer une unité de transformation sur exploitation. Donc, j'ai,
d'accord,
entamé le cursus d'installation.
Ok.
J'avais déjà des équivalences, des diplômes, ouais, agricoles, donc, mmh, j'avais pas besoin de faire un BPREA.
Ouais.
Mais j'ai fait quand même quelques stages. Je suis allé bosser un peu ailleurs,
ouais,
pour apprendre le métier d'agriculteur, parce que,
d'accord,
j'ai quand même des diplômes d'industrie.
Oui,
donc,
d'accord, ok. Voilà. Justement, ces stages, tu les as fait sur ton territoire ou t'as été voir ailleurs, enfin, t'as...
Ouais, je suis principalement resté au bourg, ouais, chez des voisins, hein, pour
pouvoir
un peu acquérir l'agronomie, quoi.
Ouais,
voilà,
okay.
Que j'avais pas forcément.
Et est-ce que tu te souviens le jour où t'as un peu annoncé, je sais pas si ça s'est fait ou pas, mais où t'as dit ouvertement, voilà, bon, je vais devenir agriculteur, quoi.
Ouais, ben c'est ben c'était pas un jour précis, ça,
ouais,
s'est fait au fur et à mesure. Ça, après, je suis venu bosser à plein temps ici. Et avec ce projet de transfo, donc, mon père, il m'a dit, peut-être tu fais chier, j'étais parti comme ça pour la retraite, j'étais cool. Et bon, c'était plus pour la blague,
oui,
qu'autre chose, hein. Ils étaient contents, mon grand-père,
ouais,
aussi, que ça puisse continuer,
ouais,
avec une nouvelle génération.
Et justement, le fait d'être la 9e, est-ce que tu sentais une pression? Ou peut-être même ta sœur, mais est-ce que vous sentiez une pression de reprendre,
non,
ou est-ce qu'ils ont...
Non, parce que c'était pas dans l'esprit de la famille, ça, jamais, il n'y a jamais eu de pression à quoi que ce soit.
D'accord.
Comme j'étais petit, on ne nous a jamais dit, allez, lève-toi, faut aller bosser. Mmh. Voilà, c'était pas l'esprit de la famille, c'était pas ça.
D'accord. Et du coup, avec le recul, tu dirais que c'est quelle partie, enfin, c'est quoi qui t'a donné l'envie de revenir, enfin, de t'installer? T'es jamais vraiment parti, mais c'est quoi qui a vraiment été le déclic de te dire,
Ben, de voir que mon père ait retrouvé le plaisir de travailler.
Ouais.
Déjà, ça a été un point quand même, mmh, fondamental, hein, parce que quand j'étais petit, mon père était pas forcément hyper heureux d'aller au boulot,
ouais,
quoi.
Mmh.
Donc, là, le passage en bio, ça l'a,
ouais,
vraiment libéré pour ça, c'était vraiment, c'est pas pour aller attraper des primes ou des trucs,
ouais,
comme ça, c'était vraiment une volonté de retrouver le côté agronomique,
ouais,
et une liberté d'action sur nos parcelles.
D'accord. Parce que du coup, avant de passer en bio, c'était quoi qui le contraignait dans sa gestion de ses parcelles?
Ben, il avait beaucoup de cultures de semences, donc qui sont très encadrées techniquement.
Oui. Donc en fait, il produisait, voilà, de la semence pour qui après vendait,
voilà,
les graines, quoi.
Du maïs,
ouais,
betterave,
okay,
voilà.
D'accord.
Pour faire de la semence. Et c'est des cultures qui sont très encadrées, donc on appelle le technicien, il nous dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais,
oui,
ça,
d'accord,
comme ça, avec tel produit, à telle, mmh, dose. En fait, on n'a plus le choix.
Ouais,
on
n'a
plus le choix de comment on va pratiquer la.
Et le fait de passer en bio, du coup, il a réussi à s'extraire de ces contraintes-là.
Oui.
Il a, voilà, du coup, il a changé aussi ses circuits de commercialisation, il a...
Ah, ça, on a révolutionné totalement le schéma de l'entreprise. Hein. Il a été jusqu'à 140 hectares,
ouais,
de grandes cultures. Et donc là, on a diversifié l'assolement, on a vendu des îlots qui étaient un peu éloignés, et on s'est penché plus sur le légume,
ouais,
voilà, de travailler des produits, et un groupement de producteurs a été créé avec un metteur en marché. Donc, pour le raisin de table, pour, ouais, tout, voilà, on est plus direct.
T'avais quel âge exactement quand ce choix-là, il l'a fait?
J'avais 18-20 ans.
Et est-ce que, même s'il n'y avait pas de pression, est-ce que c'est un sujet qu'il avait évoqué avec toi avant de prendre la décision?
Non.
Non,
c'était vraiment l'époque où moi j'étais,
ouais,
complètement extérieur à l'entreprise.
D'accord.
Même je venais pas bosser, enfin, c'était pas le but, j'étais,
ouais,
dans mes études.
Oui, d'accord. Et donc, du coup, quand tu es revenu, tu t'es adapté à, enfin, adapté, je sais pas si c'est le bon mot, à ce nouveau système. C'est toujours en bio ici aujourd'hui?
Oui, ouais, toujours en bio.
Et au-delà de l'épanouissement que tu voyais chez ton père, techniquement ou dans ton métier, c'est quoi qui t'a le plus intéressé spontanément comme ça en arrivant. Moi, est-ce que c'est les tracteurs de l'enfance ou est-ce que ça...
Non, c'est pas, j'ai la passion du tracteur, c'est, ça m'a passé. Non, le côté agronomique, la diversité en fait. Ouais. On a, je crois, on a seulement, on déclare 18 espèces à la PAC.
D'accord.
Donc okay. Il y a une grosse variété en bio parce que c'est des marchés de niche, donc il ne faut pas surproduire, ça sert à rien. Puis on a une rotation très longue avec les légumes.
Ouais.
On a 7 ans de bonne rotation.
Donc globalement, tu fais quoi aujourd'hui comme production sur ton exploitation?
Alors, on va prendre 5 minutes. Non, on a un peu réduit avec la nouvelle crise bio qui est arrivée là. Mais alors, on a des céréales, donc blé, petite épeautre, un peu de coin luzerne qu'on laisse pour le voisin parce qu'on bosse aussi un territoire.
Ouais.
5 hectares de raisin de table.
Ouais.
Donc ça, c'est pas mal de boulot. 3 hectares d'ail et d'oignon. Et donc après, du métail pour le chevrier. On lui laisse l'herbe. Après, on fait un peu de maïs.
Donc c'est un voisin à toi qui a des chèvres, c'est ça,
ouais. Un voisin à moi a des chèvres, un autre fait du pain. Sur le territoire, on est pas mal à bosser ensemble avec du matériel de Cuma.
D'accord.
Voilà, et on partage, on se vend les productions les uns aux autres.
D'accord. Aujourd'hui, c'est quelle proportion à peu près qui représente ton activité? C'est le raisin de table qui est le plus important? C'est les légumes, comment ça...
Alors, en termes économiques, le raisin de table, c'est clairement ce qui est le mieux valorisé. Ouais. Ah, mais c'est, ça demande, nous, 5 hectares, c'est à peu près un temps plein à l'année.
D'accord. OK.
Pour le suivre.
OK.
Et après, les légumes, c'est assez rémunérateur, mais c'est très chronophage en bio parce qu'on doit désherber à la main. On a des machines, mais pas tout, on peut pas tout faire. Donc, ça, et puis après, la grande culture, ça prend un peu de temps, mais voilà, avec 60 hectares, c'est pas...
D'accord. Et vous êtes combien aujourd'hui sur la structure à travailler? Associés, salariés, retraités qui aident.
Sur la structure agricole, mon père est encore associé avec moi, donc on est deux.
D'accord.
Dans un an, il prend sa retraite.
Donc ça deviendra un retraité qui aide.
On va se gratter la tête pour trouver des solutions.
Ouais.
Et après, donc sur la structure transformation, donc là je suis associé avec mon frère qui lui est commercial.
D'accord.
Et on a ma sœur en tant que salariée administratif et un peu de travail d'usine.
D'accord, ok. Tes produits aujourd'hui, tu les commercialises comment en fonction des différents...
Alors les céréales, c'est en coopérative. Ouais. Les fruits et légumes, c'est à travers le metteur en marché que j'évoquais tout à l'heure.
D'accord, donc du coup, vous ne faites pas les marchés, vous faites...
Non,
vous n'êtes pas dans une AMAP.
Mon grand-père faisait le marché de Montauban pendant 40 ans, je crois. Ouais. J'ai essayé de m'y mettre, ça m'a pas plu. Donc, on a continué un peu, mais à partir du moment où il ne pouvait plus y aller tout seul, voilà, ça s'est arrêté tranquillement. Après, on bosse pas mal avec le PAT du 82.
Donc, le plan alimentaire territorial.
Ouais.
Programme, je sais plus
plan. Le plan alimentaire territorial qui fournit la restauration collective.
D'accord.
Pas mal. Voilà, donc ça, c'est un débouché qui commence à se mettre en place et qui commence à être sérieux pour nous.
Ouais. Voilà. Ton grand-père, il est encore là aujourd'hui?
Ouais, il est
et
encore là.
Et quand lui, il a su que tu reprenais, est-ce qu'il s'est permis quand même de faire un commentaire ou
il était content.
Voilà, c'est déjà un commentaire.
Non, mais voilà, il était content. Après, ça se serait arrêté.
Oui, voilà.
Pourquoi pas? Mais c'est quand même bien de voir que ça, que ça suit, quoi. Et après, nous, l'avantage, c'est que chaque génération a amené son changement. Voilà, mon père est passé en bio, moi j'ai amené la transfo sur la ferme. Mmh. Voilà, chaque génération amène la recherche de valeur ajoutée aussi, parce que c'est quand même important. Hein. Si on ne peut pas sortir un salaire, je trouve ça compliqué de continuer à faire ce métier.
Ouais. Voilà. La transfo, aujourd'hui, vous transformez quoi et en quoi?
Alors, on transforme, là on a développé fortement le fruit, donc on transforme des pommes, fraises, kiwis, raisins de table.
Okay.
Donc on fait des jus de fruits.
D'accord.
Principalement. Après, en légumes, on a une petite gamme de soupe.
Ouais.
Voilà, on fait un peu de soupe pour s'occuper l'hiver.
Oui.
Ce serait bête de pouvoir prendre des vacances. Donc, non, voilà, on transforme les fruits et légumes.
D'accord.
On est exclusivement sur le végétal.
Ouais.
Parce que je pense que je m'entendrai pas bien avec la DSV, donc j'ai pas envie qu'il soit là.
Tu veux pas d'animaux pour pas avoir géré les administratifs, quoi.
Ouais, oui, c'est ça.
Ok.
Puis des animaux, ça a jamais été pour moi, ça a jamais été une passion. Il y en a jamais eu sur exploit. Enfin, il y en a eu, mais mon grand-père avait des vaches, mais il y avait les 5 vaches.
Justement, donc le projet de Transfo, c'est toi qui l'as amené. Tu l'as dit, donc t'es associé sur une partie vente avec ton frère, ta sœur est salariée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez quand même réfléchi un peu à trois, ou est-ce que finalement ils sont venus se greffer au projet après que toi tu es...
Alors on a mon frère, au moment où j'ai créé l'atelier de transformation, que l'idée a germé et tout, lui, il était en train de créer sa boîte aussi sur Toulouse de grossiste en épicerie.
D'accord.
Donc les deux structures ont grandi ensemble. Ouais. Et après, il y a à peu près un an, on s'est retrouvé, on a dit, bon, il y avait des taux d'achat-revente, parce qu'on achète pas mal de fruits, qui nous forçaient à créer une structure commerciale pour la transformation. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, mais mon frère est déjà commercial, donc il va le devenir officiellement pour nous. Et ma sœur, à ce moment-là, arrivait en fin de congé maternité, elle n'avait pas forcément de boulot. Et le projet l'intéressait, elle a fait un stage chez mon frère, donc... sur entreprise de grossiste pendant 6 mois en formation, et elle a intégré la structure au mois d'octobre dernier.
D'accord. Ok, donc le projet, en fait, ils s'y sont greffés une fois que c'était là.
En fait, la transfo, voilà, au début, c'était un petit projet. On a fait en 2015, je crois, on a fait 1000 bouteilles. Là, on est rendu sur des volumes bien plus conséquents.
Combien tu fais de bouteilles?
Non, là, cette année, on a produit 80 000 bouteilles.
D'accord.
De jus de fruits. Il fallait structurer réellement la chose parce que ça prenait... un volume important.
Et avec toutes ces activités-là, est-ce que tu arrives à... Est-ce que déjà tu as le même goût que ton père pour tout ce qui est agronomie et sur le suivi de la production vraiment techniquement agricole? Ou est-ce que tu as dû en déléguer une partie, ou tu arrives quand même à te concentrer dessus?
Là, on s'est un peu réparti les tâches avec mon père. Moi, je suis plus sur les fruits et légumes.
D'accord.
Clairement, c'est ce qui me plaît le plus.
Oui.
La partie grande culture, j'ai appris à le travailler, mais bon, en soi, c'est pas ça qui me fait la passion. Moi, ce qui me plaît, c'est l'agronomie, forcément, mais aussi d'amener le produit au maximum de ses capacités, donc avec la transformation.
Ouais, okay.
Donc, je réfléchis mes implantations de légumes.
Ouais.
Avec le côté économique qui est important, mais aussi jusqu'à quel point je vais pouvoir l'utiliser.
D'accord. Tu disais qu'il y avait des rotations longues, alors parce qu'on a déjà dit dans notre podcast, mais des fois il y a des gens qui les écoutent pas tous. Est-ce que tu peux expliquer le principe de rotation?
Alors le principe de rotation, c'est pour éviter les maladies cryptogamiques du sol. Donc c'est récurrent. Si on ramène la même espèce en permanence sur la terre. Eh bien, on a des maladies qui se créent, des champignons qui, à force, arrivent à s'implanter dans le sol et qui rendent malades. Et donc, l'ail et l'oignon, ils sont particulièrement sensibles à ça. Donc, il y a des moisissures qui peuvent se mettre dans le sol. Et donc, il y a entre 7 et 9 ans de rotation.
Donc, ça veut dire que si en année 2000, tu plantes de l'ail et de l'oignon, terre, tu la remettras pas en 2007.
Je peux pas revenir sur la même parcelle avant 2007.
Ce qui fait que, du coup, tu as beaucoup de petites parcelles pour faire ces rotations. Enfin, comment tu gères au niveau de ton...
De nature, le parcellaire dans le coin, il est quand même très morcelé.
Oui. Donc on est sur un territoire quercy, on l'a pas dit, mais voilà.
On est au cœur du quercy, donc là c'est joli, il y a des et tout, mais à travailler, ma plus grosse parcelle, elle fait 8 hectares.
D'accord.
Voilà, donc j'ai pas mal de parcelles, et donc on fait des rotations, on passe d'une parcelle à l'autre.
Ouais.
Certaines où on va pas, parce que quand il n'y a pas de terre, c'est compliqué de faire du légume.
Ouais.
Faut un accès à l'eau aussi, qui commence à être compliqué maintenant.
D'accord.
Mais voilà, donc on essaie d'adapter au mieux avec les parcelles qu'on a.
Et la partie vigne, elle évidemment ne bouge pas puisque c'est une culture pérenne. Tes vignes, tu sais à peu près quel âge elles ont, avec combien de temps qu'elles sont là, et est-ce que par rapport à des viticulteurs qui des fois cultivent justement le fait d'avoir de vieilles vignes, toi sur du raisin de table, ça change aussi ta façon de produire?
En raisin de table, la plus vieille, c'est le Chasselas de Moissac, on est en AOP en raisin de table. Et du coup, il va avoir 40 ans bientôt.
Oui.
Ça commence à être... Après, on a attaqué le renouvellement parce que la durée de vie des variétés maintenant, c'est entre 25 et 30 ans. On commence à avoir des baisses de rendement, des maladies qui commencent à se mettre sur le bois et tout. Donc voilà, je dirais la durée de vie 30 ans.
D'accord.
C'est pas mal. Donc, on attaque les renouvellements sur pas mal de variétés.
Et donc, t'as du Chasselas et t'as quoi d'autre comme variété?
Alors, j'ai de l'Exalta, qui est en raisin blanc, sans pépins.
Ok.
Très, très demandé par le consommateur. Et du Ribol, un raisin noir, qui lui est plus dédié à l'export Allemagne, Angleterre.
D'accord, ok.
Parce que
ça correspond plus au marché voilà, que demande.
Le marché est plus là-bas.
Ouais. D'accord, ok. Ton raisin, tu sais où est-ce qu'il est vendu? Est-ce qu'il est vendu très local ou est-ce que, à part l'Angleterre, l'Allemagne, mais le chasselas, est-ce que tu sais où, jusqu'où il va?
Eh ben, moi, je livre mon metteur à marché et après, lui, il livre Intermarché, il fait pas mal de grandes surfaces. Ouais. Aussi énormément les Biocoop.
Ouais.
Donc, avec une règle chez Biocoop qui est de 200 km autour du magasin.
Ouais.
Donc, je sais que je suis très présent sur les Biocoop toulousains.
Ouais.
Notamment. Bon, pour moi, c'est un très gros marché. Voilà. Et après, tout ce qui part en centrale d'achat, Intermarché, là, du coup, c'est dispatché. Je pense que je dois avoir du chasselas à Paris, ça m'étonnerait pas.
D'accord.
Je suis pas le seul producteur.
Non,
de chasselas,
bien sûr, Et après, est-ce que toute ta production, tu l'as dit, en ce moment, il y a une crise sur la production, sur la consommation de produits bio. Est-ce que tous tes produits, ils arrivent à être vendus sous label bio, ou est-ce que, comme ça peut être le cas en lait, par exemple, il y en a avec finalement, il n'y a pas de marché, où les acheteurs les achètent pas, donc ils les mettent en conversion.
Alors, sur les fruits et légumes, on a, j'ai aucun référentiel de personnes qui ont déclassé leur production parce que
quand même,
c'est juste le problème qu'on a, c'est qu'il y a des gros volumes qui arrivent, donc le prix de vente est moins rémunérateur.
D'accord.
Après, c'était quand même, on vendait très bien les produits, donc on pouvait accepter un petit tassement du marché. Voilà. Après, ça commence à être compliqué sur des produits qu'on peut pas conserver longtemps.
Ouais. Voilà. D'accord. Le raisin, tu peux entre le moment où tu le récoltes et le moment où il doit être consommé dernière limite, il y a combien de temps à peu près?
Alors, dans l'idéal, c'est on ramasse, on met en caisse, on livre le metteur en marché, et 3 jours après c'est un magasin.
D'accord.
Et après on peut faire du frigo jusqu'à un mois et demi.
Ah oui, d'accord.
C'est le grand maximum, mais on peut se permettre de faire du frigo.
D'accord. Ok. Et votre metteur en marché, il a les moyens de les conserver au frigo ou est-ce que...
Alors moi j'ai un frigo,
un
frigo de 300 mètres cubes, donc on commence. Je peux mettre les 2/3 de ma production. Si
d'accord, ok.
Voilà.
J'imagine que toutes ces productions, que ce soit les légumes, on va parler un peu moins des grandes cultures parce que j'en ai déjà rencontré qui sont spécialisés là-dedans, donc c'est un peu moins différent on va dire que les autres épisodes. J'imagine que toutes ces productions-là, légumes et raisins de table, fruits, ça prend énormément de main d'œuvre. Pour la récolte.
Oui.
Vous faites appel à des saisonniers? Comment ça se passe?
Alors, depuis le temps qu'on fait du raisin table, ça va faire 40 ans, donc on a une base de main-d'œuvre locale qu'on a réussi à fidéliser à force.
Vous leur donnez bien à manger, du coup.
Voilà.
Ils sont fidèles.
Non, en général, ils sont contents de revenir tous les ans. On se dit que c'est valorisant parce qu'on se dit peut-être qu'on n'est pas trop con et qu'on est un peu gentil, donc ça, c'est bien.
C'est bien. C'est-à-dire que vous êtes bon manager.
Voilà. Et après, pour ce qui est le travail du légume et le désherbage, là, c'est quand même plus compliqué.
Ouais.
Parce que c'est un travail qui est quand même pénible. C'est pas hyper valorisant d'aller avec la sarc, là. Donc là, on arrive à trouver, bon à mal an, à droite, à gauche, des jeunes, des moins jeunes, mais voilà. Après, on a une famille d'Espagnols qui vient depuis 10 ans. Donc souvent, on leur dit, on a besoin de 5-6 personnes. Donc ils envoient 3-4 jours.
D'accord. Voilà. Ok. Alors, on va aller un peu plus sur l'ail et l'oignon parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui fait de l'ail et d'oignon. Concrètement, à quel moment tu sèmes ou tu plantes, je ne sais pas. Comment ça se passe pour l'ail et l'oignon?
Alors, on va commencer par l'ail parce que les deux périodes sont pas les mêmes.
D'accord.
Donc l'ail, on le met en terre, donc on sème des gousses d'ail à partir de début novembre.
D'accord.
Et on le récolte fin mai.
D'accord.
Voilà.
Alors comment ça se récolte? Il y a une machine particulière?
Alors,
ça se récolte à la main?
Il y a des machines qui existent. Nous, on le récolte à la main parce qu'on a une meilleure qualité de travail et parce qu'on a que 2 hectares.
D'accord.
On peut le faire à la main.
Ouais.
On l'arrache, on coupe les racines, la queue et on le met à sécher.
D'accord.
Parce que le marché, il est en sec, et donc c'est 40 jours de séchage.
Donc du coup, dans le bâtiment, tu le fais dans le bâtiment de stockage où là, c'est aéré, donc ça peut sécher, ou est-ce que tu as une partie spéciale pour le séchage?
Alors, j'ai des palox ventilés, donc j'ai un système. Et du coup, après, avec une turbine, on envoie de l'air qu'on peut chauffer au gaz.
Ouais.
Là, en ce moment, ça va.
Il n'y a pas besoin de chauffer.
Mais on a une turbine, c'est un séchage contrôlé.
D'accord, ok. Ouais, c'est un peu comme ce que, enfin, j'avais rencontré une productrice de pommes de terre qui avait ça à une échelle énorme, mais c'est pareil, c'est la même idée de chauffer la production.
Et donc pour les oignons, voilà, là les périodes de semis, donc on sème un bulbille d'oignons.
Ouais, donc c'est pas avec un semoir classique.
Non, c'est des semoirs à godets en fait. Il y a une chaîne avec des petits godets qui vient attraper et qui met en terre dans le soc.
Ouais, ok.
Voilà, et ça referme derrière.
Et c'est le même pour les deux espèces, hein?
Oui.
Ouais, ok.
Ouais, ouais.
Oui,
donc on a réussi à trouver un semoir assez polyvalent.
D'accord.
Qu'on a à plusieurs, pareil, parce qu'on est plusieurs producteurs à avoir des petites surfaces en ail et oignon, parce que traditionnellement, il y en a souvent eu dans le coin. Et donc, l'oignon, on le met début du printemps, fin hiver, début printemps. Et on le ramasse là, on va commencer à le ramasser fin juillet, début août. Et donc là, on a une machine, une récolteuse à pommes de terre.
Ouais.
Donc on lève les oignons, ils sèchent naturellement au soleil, on passe à la main pour trier.
D'accord.
Pour trier, ramasser, pareil en palox. On finit de les sécher au séchoir.
Et après les oignons, par contre, la durée de conservation est bien plus longue, quoi, une fois
qu'ils sont secs. L'ail et l'oignon, ça se conserve très longtemps. D'accord. L'ail, on le garde pas longtemps parce que le marché est preneur, donc on arrive à l'évacuer. Là, voilà, il va être sec bientôt. On devrait pouvoir avoir fini de le vendre fin septembre.
Etc. D'accord, ok.
C'est à peu près nos timings réguliers. L'oignon, on peut le garder sans problème jusqu'en janvier.
D'accord.
Il n'y a pas de souci. Oui. Si on le garde au sec, on le souffle de temps en temps. Et puis...
Il y a des AOP sur l'ail et sur l'oignon dans la région Occitanie, là, sur l'ail. Mais du coup, toi, c'est quoi comme variété que tu...
Alors, nous, on est dans le secteur ail de Beaumont.
Ouais.
Beaumont de Lomagne, qui n'est pas loin.
Ouais.
On n'est pas adhérent parce que quand mon père est passé en bio, il ne voulait plus acheter nos produits.
D'accord.
Donc clairement, on est sur des variétés classiques, du Jolimont.
Voilà,
c'est des variétés normales. On n'a pas d'appellation dessus parce qu'on n'a pas envie. Et parce qu'ils n'ont pas envie de nous avoir au sein de l'appellation. Donc on n'a pas insisté.
Et après, l'oignon, c'est...
L'oignon, c'est pareil. C'est des variétés classiques. Et là, nous, vu qu'il y a souvent un territoire collé à un label, nous, sur le territoire, on n'en a pas.
Ouais. Le fait d'être en bio aujourd'hui, est-ce que, au-delà de tout ce qu'on a dit par rapport à ce que ça représentait pour ton père, est-ce que pour toi ça veut dire quelque chose de particulier aussi ?
Alors pour moi, on n'aurait pas été en bio, je ne me serais pas installé.
Ok.
Déjà, parce que je voyais mon père pas heureux à conventionnel, donc à aucun moment ça m'intéressait de ne pas être heureux à mon travail.
Ouais.
Et moi j'ai quand même cet esprit-là d'avoir une démarche éco-responsable.
Ouais.
Mon atelier de production jus de fruits, il y a zéro déchet.
Ouais.
Tout ce qui est les déchets de pressoir, on les épand dans les champs.
D'accord, ok, vous en servez pour faire du fertilisant, quoi.
Voilà.
Ok.
Et donc c'est une démarche qui, pour moi, est importante, pour mon frère aussi. On a les bouteilles, elles sont consignées. Enfin,
d'accord.
On a mis en place le moins de déchets possible.
Alors, je reparle un peu de ton grand-père, mais du coup, justement, qui n'avait pas dû connaître le bio. Alors, sûrement, il était très raisonné parce que l'agriculture traditionnelle d'il y a 60 ans, elle était quand même raisonnée. Mais qui, malgré tout, a vécu toute cette arrivée de la chimie. Comment il voit votre travail aujourd'hui avec la transpo, avec justement le fait d'avoir des démarches raisonnées? Est-ce qu'il jette un regard dessus?
Alors, au tout début, quand mon père est passé en bio, il a regardé ça avec un œil un peu circonspect, à se dire qu'est-ce que c'est. En plus, c'était en 2000, donc
oui,
il n'avait pas de recul sur les marchés et tout. Après, quand il a vu que mon père était content, que la performance économique aussi de l'entreprise avait été retrouvée, il s'est dit c'est pas mal. Et puis après tout le côté agro-environnemental et tout, je pense qu'il s'en fout un peu. C'est pas
sa génération, quoi.
Voilà, mais il est content qu'on soit content.
Voilà.
Donc, voilà.
Non, mais c'est bien, parce que des fois, il y a des générations qui se permettent.
Ouais, comme je disais, on a toujours été ouverts, nous, chaque génération a tous été ouverts. Mon grand-père a été de cette génération qui ont créé les coopératives, notamment. Lui, il était très engagé au niveau grande culture sur la création de coopératives. Il a toujours été précurseur, lui aussi, donc,
Oui, il laisse les autres générations l'être.
C'est ça.
Aujourd'hui, tu l'as dit un peu tout à l'heure avec la question de l'eau. Aujourd'hui, c'est quoi tes combats, ou en tout cas les enjeux forts qu'il y a sur ton exploitation pour les années à venir?
Mes combats et les enjeux, c'est qu'on arrive à garder une performance économique intéressante. Nous sortir un salaire, déjà, ça me paraît être la base. Mais aussi, au niveau local, on crée de l'emploi, on crée beaucoup de choses. Donc, on amène de la vie dans le local, parce que t'as dû voir en arrivant, c'est pas la grande ville, quoi.
Non, c'est voilà. Bon, mais on peut le dire.
C'est quand même bien perdu. Moi. La première ville est à 30 km, ouais. Là, donc le fait qu'il y ait des activités agricoles fortes et créatrices de main-d'œuvre, bon, ça, c'est intéressant. Ouais. Et après, moi, je suis pas mal engagé aussi dans la bio. Je suis président d'un groupement de producteurs, donc j'ai envie que tout le monde s'en sorte. Ouais. Et moi, à titre personnel, j'ai une fille.
Ouais.
J'aimerais qu'elle puisse, si elle en a envie, lui transmettre une exploitation qui est viable économiquement. Ouais. Si c'est pas viable, je dirais, t'embêtes pas trop avec ça, essaye d'aller voir ailleurs s'il y a des trucs intéressants.
Ouais.
Après, s'il y a des idées, je vais pas l'empêcher d'innover.
ce serait dommage.
C'est pas dans l'esprit. Donc,
ouais.
Donc voilà. Et après, moi, les leviers à lever, c'est l'accès à l'eau, hein.
Ouais.
Clairement,
du coup, ici, on est sur un territoire, donc, Quercy, donc, plutôt de Cosse. Si je dis pas de bêtises, hein, tu m'arrêtes. Et donc, du coup, moi, j'ai une vision du Cosse un peu côté Larzac où il n'y a pas de rivière, ou très peu. Comment vous avez accès à l'eau, justement? Vous avez des réserves? Comment vous faites?
Nous, on a des rivières. Le Tarn-et-Garonne, on a pas mal de rivières. Mon secteur, précisément, j'ai la Barguelonne qui, elle a une nappe souterraine qui est quand même assez conséquente. Donc,
d'accord.
Mais qui est soumise à restriction.
Ouais.
Donc, dès qu'il y a une restriction, on se fait allumer. On a des projets de réserve, il y en a pas mal, moi j'en ai pas.
Ouais.
Donc, il faudrait que j'en fasse une. C'est la Croix et la Bannière.
Ouais.
Pour faire un lac. Alors, les énergies ont l'air de se débloquer un peu, parce que avec l'année dernière, l'année qu'on a passée, ça a quand même changé un peu l'état d'esprit de l'administration. Ouais. Donc, il y a, je pense, des possibilités qui vont arriver bientôt de faire. Moi, il faudrait que je fasse un lac.
Ouais.
J'ai l'endroit parfait. Le problème, ils y ont trouvé une ligne d'huile et une crevette. Donc,
s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de crevette. Ouais. Il y a déjà une rivière, du coup.
Il y a un fossé, c'est une zone humide qui a été classée Natura 2000.
D'accord.
Donc, après, certaines règles vont être changées. Donc, je pense que c'est pas complètement mort. Puis on a des bassins versants, en fait, c'est très vallonné. Donc on a des combles, il suffit de récupérer l'eau à mi-chemin, c'est naturel, et je pense qu'un lac c'est pas plus mort que...
En général, ce que j'allais te dire, c'est quand même très pauvre, ça amène beaucoup de biodiversité quand même, un lac. D'accord, donc c'est ça ton gros projet. Est-ce que vous avez aussi le projet de développer à moyen ou long terme d'autres produits, ou est-ce que là, vous dites que vous êtes arrivé à un niveau de croisière et que...
Alors, comme je disais, le fruit, ça y est, tout est mis en place, ça, c'est à peu près calé. Faut encore pouvoir travailler le noyau, c'est techniquement, c'est encore
d'accord,
un peu différent.
D'accord, on peut faire quoi avec
les noyaux? Ben non, mais les fruits à noyaux.
Ah, pardon.
abricot, cerise, d'accord. C'est un fruit que je peux pas travailler.
Ouais.
Il suffit d'acheter une machine, après. Et là, le prochain projet, c'est de développer les légumes.
Voilà. D'accord.
Travailler un peu plus les légumes.
Sur d'autres variétés?
Ouais, je peux. Moi, j'ai rien contre le fait de planter 3 rangées de citrouilles, faire mes légumes et de les transformer après.
Ouais.
Voilà.
Et oui, pour les soupes, forcément, ce serait.
Ouais, les soupes, les purées, voilà. Et après, il y a des. Mon cerveau, il va très vite. Donc, je crée pas mal de trucs, on fait des tests et puis on voit si ça fonctionne ou pas.
Vous avez quoi comme test en ce moment?
Là, en ce moment, on a testé des soupes avec des mélanges légumes, céréales.
Ouais.
Voilà, on a courge, orge, des trucs, un peu dans l'idée du repas complet du soir.
D'accord.
Voilà, qui peut être pas mal. Des purées, pas mal, pois chiches, lentilles, enfin, les légumes secs. Voilà, parce qu'il y a pas mal de production dans le coin de légumes secs. Voilà, et puis après, j'ai tenté une gelée de fruits, des gelées de raisins.
D'accord.
Ça marche.
Là, c'est le petit côté industrie agroalimentaire qui revient derrière.
C'est ça.
Justement, ça t'a amené quoi, puisque t'as une unité de transformation, que tu transformes pas que tes produits, ça t'a amené quoi, c'est d'avoir fait tes études plutôt sur le côté industriel et agroalimentaire aujourd'hui dans ton activité?
Sans ça, je pense que j'aurais pas été en capacité de monter l'atelier de production que j'ai maintenant.
Ouais.
Parce que c'est quand même du matériel très spécifique. Oui. Hein.
Et puis j'imagine qu'il y a des normes, il y a des...
Il y a le fruit et légumes, il y a pas trop. On n'est pas trop embêté par les normes. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Ouais. Mais techniquement, la machine, il y a un problème. Je vais pas y aller avec un marteau et une clé de 27. Voilà. C'est plus des petites clés à laine. Il y a de l'hydraulique. Il y a de l'air comprimé. Tous les fluides sont présents. Il y a du gaz.
Ouais. Voilà. D'accord.
Donc c'est du petit matériel Et qui,
pas si le, on pas sait le poste pas, à souder direct, quoi.
Voilà. Et puis, si on sait pas le mener comme il faut,
ouais.
Ça tombe vite en panne et ça coûte vite très cher aussi.
D'accord. Ouais. Donc, tu l'as dit à plusieurs reprises que la partie territoriale, elle était importante pour toi. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais identifié dès le début ou est-ce que finalement c'est arrivé par le constat de l'impact de ton activité sur le territoire?
C'est arrivé par l'implication de mon père au niveau territorial, beaucoup. Et après, moi, je sais que quand j'ai monté mon projet de transformation, il y a beaucoup de petits producteurs de fruits dans le coin. Et donc, je savais qu'il y avait une demande pour faire des jus de fruits locaux. Et il y a une demande pour en acheter, il y a une demande pour en fabriquer.
Ouais.
Et donc, moi, je me suis dit, je suis au milieu de ce territoire-là.
Ouais.
Je peux apporter cette solution-là aux autres producteurs et amener aux consommateurs un produit qui me semble plus qualitatif que des jus de fruits industriels qui sont surchauffés, surfiltrés.
D'accord. Le fait que tu aies de la commercialisation qui se fasse par le PAT, ça veut dire qu'il y a eu un lien qui s'est fait forcément avec les élus, puisque c'est une volonté politique en général, ce genre de plan. Comment s'est passé le contact et comment tu es arrivé à pouvoir commercialiser à travers ça?
En fait, nous, en Tarn-et-Garonne, le plan alimentaire territorial est porté et piloté par la chambre d'agriculture.
D'accord.
Donc, c'est aussi ce qui a permis de créer du lien avec les agriculteurs.
Mmh.
Voilà. Et donc, à ce moment-là, moi, j'étais déjà plus ou moins présent sur certains événements du département avec mes jus de fruits.
Oui.
Et donc, un peu connus, ils sont venus me voir. On sait que tu as ça. Et moi, je leur ai dit, je peux en faire beaucoup plus, je peux adapter. J'ai créé le bagging box en 5 litres, exprès pour la restauration collective.
D'accord.
Voilà.
Quel est le dernier film que tu as aimé ou série?
Poufou. Là, j'ai vu Batman, il n'y a pas longtemps.
Ok. Le dernier achat que tu as fait pour ton métier?
Une versetterie.
D'accord, ça sert à quoi?
Une versetterie indispensable en bio pour gérer l'herbe. Voilà, ça permet de désherber les grandes cultures. Voilà, ça remplace le glypho.
D'accord. La dernière chanson que tu as fredonnée?
C'était Orelsan Manifeste.
Ok. Et la dernière recherche Google que tu as faite?
Les podcasts.
Pour savoir ce que tu allais faire ce matin. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu es fier?
Ouais, je suis fier que l'entreprise familiale soit restée et d'avoir intégré mes frères et sœurs à ce projet-là. Ça, c'est cool.
Justement, sur cette question de l'entreprise familiale, même si tu l'as dit très bien, que tu avais le choix, est-ce que finalement, si tu n'avais pas pris ce choix-là, ou si par exemple ta fille ne prend pas ce choix-là, on a bien compris qu'elle aurait le choix aussi. Parce que malgré tout, il y a une difficulté de se dire on casse la chaîne.
Moi j'ai toujours eu quand même ça au fond de la tête, c'est quand même, ça serait con que ça s'arrête, quoi.
Ouais.
Ça fait longtemps qu'on est là, ça serait con que ça s'arrête, ça on l'a. Après, on n'était pas fermé à prendre quelqu'un d'extérieur à la famille, voilà. Ça serait con que l'exploitation agricole s'arrête.
Ouais.
On n'est pas fermé,
comment faire
pour la retraite?
Mais c'est juste que effectivement on voit souvent cette histoire de chaîne et d'être le maillon qui casse, pas évident. Ouais. Dernière question. Alors bon, en l'occurrence, t'en as deux paires, tu nous l'as dit, mais comment tu t'y sens dans tes bottes aujourd'hui?
Ah, je me sens bien dans mes bottes.
Ouais.
Ça me plaît de partager comment je me sens dans mes bottes.
D'accord.
C'est pas mal.
Ok, merci JB.
Avec plaisir.
On peut être la 9e génération, mais ne pas avoir eu tout de suite envie d'être agriculteur. On peut rester marqué par les difficultés financières d'hier et mettre tout en œuvre pour que les éloigner le plus possible aujourd'hui. On peut trouver sa place, son bonheur, dans le changement des produits, des pratiques. On peut travailler en famille, mais que chacun ait pu écouter ses envies et appliquer ses compétences. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt dans de nouvelles bottes.